Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, pour l'instant, il n'y a qu'à La Réunion ou d'autres territoires d'outre-mer que l'on peut poser ses fesses dans un cinéma en France. En métropole, aucune expérimentation n'est prévue, à l'image de ce qui va se faire pour les concerts. Les 5913 écrans des 2046 cinémas de France restent obstinément fermés. La Société des réalisateurs de films, ainsi que près de 50 organisations et plus de 800 professionnels du cinéma demandent la réouverture des salles de cinéma. Leur tribune a été publiée dans le journal Le Monde du 3 mars. À vous de regarder de quoi il s'agit, mais pas sûr de toute façon que ça n'apporte grand-chose. En attendant, on vous propose un nouveau sommaire avec des films sortant en VOD, DVD, Blu-ray, et puis d'autres présents sur les plateformes. Et c'est le cas de ton film, Manu. Bonjour.
Bonjour, oui. Mira, la fille du train, nouvelle adaptation du best-seller de Paula Hawkins, qui avait été aussi une première fois adapté en 2016.
Quant à Guillaume, il reviendra sur un film de Francis Ford Coppola qui ressort en DVD. Il s'agit de Jardin de pierre, film de 1987. Quant à moi, je vous parlerai de Boss Level de Joe Carnahan, l'histoire d'une boucle temporelle, ce qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test pour découvrir 5 titres de films avec des boucles temporelles. Vous avez le temps de regarder une petite liste sur Internet, pourquoi pas, puisque ce blind test interviendra en milieu d'émission, sachant qu'il n'y a pas énormément de films non plus avec des boucles temporelles. J'avoue qu'il a été vite fait, ce blind test. Mais on va débuter ce cinérama avec Spoutnik, espèce inconnue, film de Egor Abramko, un film fantastique russe qui nous met aux prises en URSS avec un parasite venu de l'espace, moins bon qu'Alien, mais pas inintéressant. Et c'est disponible en DVD et VOD.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Cette chose vit en lui.
Il n'en a pas conscience. Votre mission est de séparer le parasite de l'autre.
Nous sommes en pleine guerre froide, en 1983 plus précisément, et deux cosmonautes réputés, fierté de l'URSS, rentrent d'une mission spatiale qui s'est déroulée pour le mieux. Mais une fois revenus sur la Terre ferme, un seul d'entre eux est encore en vie, Vechniakov de son prénom, qui semble avoir ramené depuis l'espace une espèce inconnue tapie dans son organisme. Tatiana Klimova, psychologue réputée dans la profession mais également mise de côté pour avoir défié sa hiérarchie, est appelée à la rescousse pour tenter de comprendre la nature du monstre qu'abritent les entrailles de Vechniakov. Alors est-ce un parasite, c'est-à-dire un être qui vit aux dépens de son hôte, ou est-ce ce que l'on appelle un symbiote, c'est-à-dire un organisme qui vit en symbiose avec une espèce différente? C'est ce qu'elle va devoir déterminer, tout en empêchant cette créature de nuire, car elle a également la fâcheuse tendance à manger le cerveau des humains qui l'entourent.
Qu'est-ce qu'ils veulent de moi?
Si vous avez besoin de moi, pourquoi me cachez-vous certaines choses? Si cette chose s'échappe, tout le monde mourra.
Ce que nous accomplissons est plus grand que tout cela. Cela serait un sacrifice nécessaire.
Le réalisateur russe Igor Abramenko signe à 33 ans seulement un premier film qui, sans pour autant marquer indurablement les esprits cinéphiles, présente tout de même de nombreux points intéressants. Déjà, son contexte, celui de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis, qui en 83 a failli basculer dans la guerre nucléaire, un contexte plus que tendu au goût de fin du monde, idéal pour un thriller SF, un contexte prolongé dans le film par des décors on ne peut plus austères qui permettent de mêler histoire et science-fiction. La base militaire dans laquelle le cosmonaute est enfermé et étudié par l'armée est en effet perdue dans les plaines du Kazakhstan et s'avère également être une sorte de goulag dans lequel des mystérieux prisonniers sont enfermés. L'angoisse également est ici plutôt bien maîtrisée, car on comprend vite que le danger peut aussi bien venir de la créature que des humains eux-mêmes, notamment des plus patriotes. Et nous, spectateurs, découvrons ces multiples dangers à travers les yeux de la psychologue Tatiana, seule femme de la base et donc proie notoire, bien que son personnage s'avère être aussi fort que complexe. Et pour finir, eh bien, Spoutnik peut également se targuer d'être visuellement impressionnant pour un budget très réduit, un budget de 3 millions de dollars seulement, qui n'empêche pas les effets spéciaux d'être réussis. La conception de la créature, tout en rappelant bien sûr le mythique alien, se démarque avec une vraie identité visuelle, et l'évolution de la créature également est suffisamment bien pensée pour être réellement dérangeante. Et de toute façon, ceux qui ont déjà eu un parasite dans le ventre savent bien à quel point cela peut être effrayant. Au final, Spoutnik est plutôt réussi, les acteurs sont bons, la mise en scène tout à fait louable et les effets spéciaux, malgré un faible budget, très efficaces. Néanmoins, eh bien, la froideur du film semble s'étirer un peu partout, dans son atmosphère, ses dialogues, sa photographie, et cela finit par lasser et même par nous ennuyer un petit peu sur les 2 heures que dure le film.
Vous ne savez rien de moi.
Il y a tant de choses qu'on ignore sur nous-mêmes.
Spoutnik, espèce inconnue, film russe, est disponible en DVD VOD depuis fin février maintenant. Une jeune divorcée perturbée fait une fixation sur un couple apparemment idéal, hein, jusqu'à ce qu'une découverte bien choquante la plonge dans une inextricable affaire de meurtre. C'est l'adaptation du best-seller en librairie de La fille du train de Paul Hawkins, mais cette fois-ci version indienne, et c'est toi Manu qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
À l'époque de la sortie de La fille du train de Ted Taylor, adapté du best-seller de Paula Hawkins, le jeu outrancier de Emily Blunt m'avait particulièrement agacé. Alors en endossant le rôle d'une alcoolique dépressive prise dans les mailles du filet d'une intrigue diabolique, elle s'appliquait à démontrer en force toute l'étendue de son talent en surjouant constamment son personnage, plombant un thriller de facture honnête. Hein. Mais oubliez la performance de Emily Blunt, qui est quand même une très bonne actrice à côté, hein, je ne sais pas pour remettre en cause son talent, qui est à côté donc de celle de tous les comédiens de ce remake ou nouvelle adaptation du roman, bah, est un modèle de sobriété. Alors Mira, la fille du train, d'un certain Ribou Dasgupta, est une production Bollywood dans toute sa splendeur sur un sujet qui ne s'y prête pas forcément, ou du moins pas dans notre représentation, alors souvent faussée, de ce que l'on peut attendre du cinéma indien. Alors coutumier des grandes fresques familiales, les films de Bollywood ont également investi tous les genres et aligné une série de remakes de succès mondiaux. Alors pour anecdote, hein, il y a même eu des taxis version locale. Alors pour les néophytes, étrangers à ce cinéma exubérant et exaspérant, un temps d'adaptation est nécessaire au risque de décrocher au bout de 15 minutes ou de se demander s'il ne s'agit pas d'une parodie. Les acteurs en roue libre s'agitent dans tous les sens, roulent des yeux, expriment les sentiments comme au temps du muet. L'héroïne de cette nouvelle fille du train joue les alcooliques avec une telle emphase que cela en devient fascinant. Ensuite, si le réalisateur nous épargne des numéros musicaux, alors sauf dans une introduction par ailleurs très jolie en termes de colorimétrie et de rythme, il ne fait pas l'impasse sur les innombrables chansons qui inondent le métrage de la première à la dernière minute, avec les sous-titres en français pour bien marquer l'importance de la niaiserie des textes sur des mélodies pop sucrées orientales. Alors pour corser le tout, comme dans tout bon film Bollywood, les scénaristes ont sciemment saboté le roman, multipliant les rebondissements improbables, changeant totalement la fin avec un twist particulièrement délirant. Si vous acceptez le jeu de rentrer dans ce tourbillon de mauvais goût, aux éclats délicieusement kitsch, Mira, la fille du train, remplit sa fonction de divertissement, parfait les soirs de grande fatigue, l'exotisme en bonus, même si le film est censé se dérouler en Angleterre. Alors, toute la mise en place est identique à la première adaptation. On a toujours Mira, jeune femme divorcée, ex-avocate ayant découvert les effets destructeurs de la boisson. Elle fait une fixette sur un couple en apparence idéale de la fenêtre du train qu'elle prend quotidiennement. Alors, malheureuse et jalouse, elle va s'approcher d'un peu trop près de ce couple moins idyllique que prévu et plonger dans une affaire de meurtre où elle va devenir la principale suspecte. Alors, le réalisateur, Dasgupta signe son 3e long métrage et semble poursuivre une certaine logique au sein du thriller tarabiscoté. Le récit est un tel casse-tête chinois, souvent en contradiction avec des enjeux narratifs grossiers et d'une psychologie très sommaire, qu'il en devient extrêmement ludique à condition d'être un minimum pervers ou très naïf, ou bien les deux, comme je peux l'être d'ailleurs. Une fois digérées les règles imposées par un cinéma très codifié et très prude, on ne s'embrasse absolument jamais dans un film de Bollywood, mais truffé de sous-entendus et d'allusions sexuelles détournées, le plaisir devient total, d'autant que la mise en scène, ample et efficace, soutient le récit à un rythme parfait durant 2 heures. Et finalement, quand j'y repense, ces chansons, aussi nunuches soient-elles, hein, apportent à l'ensemble une fraîcheur et permettent aussi au spectateur de reprendre son souffle avant les multiples révélations, jusqu'à un retournement de situation qui ferait passer le magicien David Copperfield pour un charlot. À ce degré de coïncidence et d'invraisemblance, cela confine au génie. Alors j'ai l'air d'être ironique comme ça, mais j'ai plutôt été charmé par ce gros pudding typique de la tradition Bollywood, un cinéma qui n'a par ailleurs jamais pris en France. Alors sauf du côté des communautés maghrébines pour des raisons similaires. Les films populaires réalisés en Algérie, Turquie ou Égypte sont souvent des soap-opéras candides marqués par une forme d'hyperbolisme où la moindre émotion est surlignée au marqueur. Alors de mémoire, seul Devdas et La Famille indienne, peut-être 2-3 autres, ont eu droit à une sortie en salle en France. Alors grâce à Netflix, cette injustice est réparée. Outre La Fille du train, vous pouvez voir un nombre incalculable de productions indiennes brassant tous les genres, de la comédie au film d'horreur, en passant par le cinéma d'action et le polar. Et comme les films durent entre 2 heures et puis voire 3, voire 4, vous en avez pour un moment pour découvrir finalement une cinématographie assez amusante, assez ludique, malgré le côté des fois un petit peu ringard.
Et puis on pourrait s'amuser à calculer, parce que l'Inde est toujours le plus grand producteur de cinéma au monde, avec quasiment 2000 films par an, quand la France n'en produit que 300, et puis les États-Unis un peu plus de 700.
Les deuxièmes, c'est le Japon. Ils en sont à entre 1000 et 1500 films par an.
Ah, mais je ne sais pas d'où tu tiens tes chiffres, parce que moi, mes chiffres qui datent de 2018 donnent le Nigeria en deuxième, effectivement, parce qu'il y a les direct-to-video. Bon, voilà, c'est pas, là, tu parles... Oui, je ne sais pas de quoi
tu parles. Je parle d'ailleurs de tout ce qui est en termes de production cinéma. Ah, aussi la vidéo. La vidéo est inclue là-dedans, en fait.
Donc, il faudrait prendre le temps d'avoir les bons chiffres. En tout cas, c'est sûr, le premier, c'est l'Inde. Ça, c'est clair. On referme cette page Netflix pour une page VOD avec Boss Level, une boucle temporelle dans laquelle on ne fait que se prendre des nions. C'est un film de Joe Carnahan.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Je me plaignais d'avoir à subir tous les jours la même chose. Maintenant, chaque matin, c'est pareil.
Boss Level de Joe Carnahan, réalisateur du Temps des loups et de Mise à prix, aurait pu sortir en salle si celle-ci avait été ouverte. Mais c'est finalement directement en VOD, DVD et Blu-ray que le film qui permet de revoir un peu en coup de vent Naomi Watts et Mel Gibson est sorti. Alors on sent bien que le film n'était pas du tout prévu pour une telle carrière, puisqu'ils n'ont placé qu'un bonus de 8 minutes avec le DVD. Cela étant, Boss Level ne se présente à nous que comme un aimable divertissement qui prend pour prétexte la boucle temporelle et la nostalgie de jeux vidéo en 8 bits des années 80 comme Double Dragon pour donner dans l'action. Et l'action se renouvelle. Pour planter le décor, on suit un vétéran des forces spéciales qui est à la retraite et celui-ci ne cesse jamais de revivre la même journée pendant laquelle un commando implacable mêlant des assaillants plus ou moins sadiques veulent lui faire la peau. Alors comme dans un jeu vidéo, cette journée s'achève toujours par sa mort de manière plus ou moins fugace. Évidemment, pour comprendre pourquoi il est dans une boucle temporelle et surtout pourquoi on veut sans cesse le zigouiller, il doit trouver qui est responsable de ça. Comme toujours, quand il s'agit de boucles temporelles, il faut un temps d'acclimatation à celui qui en est victime. Alors cela dit, ce qui est amusant avec notre héros, c'est que le premier assaillant arrive alors dans sa chambre directement dès qu'il ouvre les yeux. Ça va très vite. Un épisode qui devient juste une formalité après qu'on ait entamé le premier quart d'heure. Alors ça se corse plus loin dans le récit une fois que notre héros a trouvé un endroit pour souffler un peu. Ce récit, il est plutôt linéaire. Alors mis à part une ou deux surprises, on n'est pas secoué par le scénario qui est programmatique. Le héros est interprété par Franck Grillo, acteur que j'ai rarement vu, tant il est cantonné au film Bourrin. Toi, tu l'as un peu vu.
Oui, dans le troisième American Nightmare, où il était plutôt convaincant d'ailleurs.
Là, il joue effectivement de ses muscles et applique ses techniques de combat, mais il y a également toute une partition comique, ce qui permet, il faut bien l'avouer, de rendre le spectacle de la boucle temporelle plus amusant. Là où, par exemple, l'excellentissime Edge of Tomorrow avec Tom Cruise restait dans un premier degré, nous plongeant dans l'univers d'un jeu dont il faut parvenir à contrer les ruses. Ici, c'est plutôt le second degré qui l'emporte. Alors, Boss Level n'a rien d'un grand film. C'est même un rejeton anémié de Edge of Tomorrow, qui avait pour lui une ambiance, un scénario et une mise en scène implacable. On lui trouve facilement quelques défauts à ce film de John Carnahan, qui avait montré tant d'aisance dans Le Temps des loups, notamment dans une scène d'accident d'avion bien secouée, et qui m'a durablement marqué. Et puis, on l'avait vu aussi dans Mise à prix, et puis il y avait un autre film aussi.
Son premier qui est remarquable et qui s'appelle Narc, un film dans la lignée des films de Sidney Lumet.
Et si jamais la capacité de réécrire l'histoire était bien réelle,
Et si nous pouvions effacer toutes nos erreurs? Le prototype nous donne le pouvoir de Dieu.
Ne crains rien, mon fils. Je vais revenir pour toi. Comment je peux arrêter tout ça, Gemma?
Il ne s'agit pas de l'arrêter, mais plutôt de le relancer.
C'est exact.
Une fois passée la stupeur, je veux que ça s'arrête.
L'un des plus gros défauts, eh bien, ce n'est même pas l'explication de la boucle temporelle qu'on admettra, parce qu'on n'est pas tous très forts en mécanique quantique, mais c'est bien plutôt la référence aux jeux vidéo des années 80. Alors, sauf si c'est pour nous montrer que, compte tenu de la technologie balbutiante, on laissait de côté le réalisme pour l'action et le pur plaisir. Alors, le problème, c'est que Boss Level ne fourmille pas non plus de scènes époustouflantes hein, pour un budget atteignant pourtant les 50 millions de dollars. Alors, on est loin d'une image comparable aux jeux vidéo en 8 bits et leur palette de couleurs amoindrie et leurs mignons pixels. Pas de mimétisme, mais juste un clin d'œil, donc, alors pourquoi pas. Quant aux prestations de Naomi Watts et Mel Gibson, eh bien, elles sont peu consistantes, même si Mel Gibson a l'occasion de faire dans le monologue, et puis d'en imposer un peu. Et puis, on remarque aussi que la plastique de Naomi Watts n'a pas tant changé, finalement, depuis ses dernières apparitions, parce qu'elles sont finalement peu nombreuses, hein, en tout cas, en ce qui me concerne.
Les actrices qui dépassent 50 ans, on les voit de moins en moins, souvent. Mmh. Hein, c'est elles commencent à avoir peu de rôles, et elles reviennent des fois sur le tard. Mmh. Dans des rôles de grand-mère, hein, comme Ellen Burstyn ou des actrices comme ça.
Eh bien, à la prochaine fois, donc, Naomi Watts en grand-mère. Bon, ça va prendre un petit moment quand même pour la voir en grand-mère, quand même.
Je meurs jour après jour.
Ce film, Boss Level, qui est donc disponible en DVD, Blu-ray, VOD, nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial boucle temporelle. Il y avait peu de films, alors à vous de jouer.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il? D'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Alors, il est évident que la référence absolue, c'est...
Un jour sans fin d'Harold Ramis.
Et oui, et donc je ne l'ai pas mis dans ce blind test parce que ça aurait été là vraiment, vraiment, vraiment trop facile. Mais je ne pense pas que ce soit si compliqué parce qu'il y en a, alors à peu près, je pense que j'aurais pu en mettre une dizaine. Mais il y a beaucoup, beaucoup de films qui sont, j'ai remarqué, repris par Netflix et produits par Netflix. Donc voilà, je n'ai pas pu vraiment les intégrer. C'est parti, premier extrait.
À 7h48 ce matin, heure locale, une bombe a explosé à bord d'un train de banlieue de Chicago. Il n'y a aucun survivant. C'est dans ce train que vous étiez.
Non, c'est ici que je suis et là d'ailleurs, c'est à moi que vous parlez.
À bord de ce train, il y avait le dénommé Sean Fentress. À présent, et à toutes fins utiles, il est désormais... vous. Chaque seconde perdue en explication met en danger un plus grand nombre de civils innocents.
Ça n'a ni queue ni tête.
L'attentat du train n'était que le premier d'une série. D'autres vont suivre. Où avez-vous trouvé la bombe?
Alors, c'est trouvé.
Et c'était donc source code du fils de David Bowie, Duncan Jones.
Oui, film sorti en 2011 dans un train à destination de Chicago. Le capitaine Colter Stevens se réveille brusquement, il est dans le corps d'un autre et il a une mission, il a 8 minutes hein, pour trouver qui a posé une bombe dans ce train. C'était la voix française de Jake Gyllenhaal, 710 000 entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test spécial boucle temporelle.
Les gens comme nous sont persécutés depuis la nuit des temps. C'est pour cela que nous vivons dans des endroits comme celui-ci. J'appartiens à une certaine catégorie, les embrunes.
Oui, je sais, les gens qui se transforment en oiseaux.
Vous avez raison, c'est exact. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Le principal talent d'une embrune est la manipulation temporelle. Nous choisissons un endroit sûr et un jour tranquille, et nous créons une boucle.
Je comprends pas.
Une boucle temporelle permet de sauvegarder les dernières 24 heures. Si on renouvelle la boucle, on peut de nouveau vivre ces 24 heures. Si on recommence chaque jour, ces 24 heures durent pour l'éternité. Et on y réside à jamais à l'abri du monde extérieur. Toutes les ombrunes s'engagent à créer et diriger un établissement tel que celui-ci. Un foyer pour enfants particuliers.
Alors, je pensais que tu aurais trouvé que c'était évident, puisque là, on explique hein, d'où vient cette boucle temporelle, elle est créée.
Et c'est les embrumes, ça ne me dit rien, en fait.
Et si je te dis que c'est Eva Green?
Ah, c'est le film de Tim Burton?
Oui, tout à fait.
Oui, il ne m'avait pas marqué, ce film.
Moi non plus.
Voilà. Miss Peregrine, c'est ça?
Oui,
Miss
et les enfants particuliers. Voilà. Adaptation du roman de Ransom Riggs. À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l'existence d'un monde mystérieux qui... le mène dans un lieu magique, la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. Et en faisant ce voyage vers cette maison, eh bien, il découvre tout un monde et la part qu'il va devoir jouer pour le préserver, ce monde. C'est un film de 2016 et qui a réuni 2 700 000 spectateurs en France, donc un gros succès. Troisième extrait de ce blind test.
Peux-tu s'il te plaît arrêter de me regarder comme si j'avais chié sur la tête de ta mère?
Je m'excuse,
J'essaie juste de comprendre ton histoire.
Et est-ce que tu y arrives ?
Admettons que je crois que tout ça soit vaguement possible. Tu dois être coincé dans cette journée pour une raison, ok ? De tous les jours de ta vie, il faut savoir pourquoi celui-ci est spécial, pourquoi il est important.
J'en sais rien, c'est... Papa.
C'est vraiment ta fête ?
Ouais.
Allô ?
Et alors ? Les anniversaires sont juste une excuse pour ouvrir des cadeaux et manger du gâteau. Le jour de notre fête n'a rien de significatif.
Non, c'est symbolique, ok ? Celui qui veut te tuer sait que c'est ton anniversaire.
Alors, heureusement qu'elle a aidé hein, pour démêler tout ça.
Et c'est donc Happy Birthday.
Oui, comédie horrifique réalisée par Christopher London, sortie en 2017. Prisonnière d'une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre, une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort atroce. Et elle va tout faire pour trouver le tueur, interprété par Jessica, alors je crois qu'on dit Ruff. Et il faut savoir qu'elle a une trentaine d'années, mais qu'elle elle jouait une étudiante de 20 ans. Enfin, voilà,
c'est assez courant dans le au cinéma.
552 000 entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test.
La première fois que vous êtes mort, il s'est passé quoi ? Vous avez tué un mimique ?
Ouais.
Décrivez-le.
Il était différent. Il était plus gros. Bleuâtre.
Et vous avez été couvert de son sang.
Ouais, c'est bien ce qui s'est passé. C'est ça.
Ils savent qu'on débarque sur la plage demain. Ce sera un carnage, n'est-ce pas ?
Mais comment vous le savez ? Est-ce que... Attendez. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement ce qui se passe, nom de Dieu ?
Ce qui vous arrive m'est arrivé à moi. Je l'ai eu, je l'ai perdu, ok ?
Eh ben c'est génial, on peut soigner, mais comment je m'en débarrasse ?
J'ai besoin de votre aide d'abord.
En faisant quoi exactement ?
En gagnant la guerre.
Trouver.
Et c'est donc Edge of Tomorrow.
Et oui, film américain réalisé par Doug Liman, sorti en 2014. C'est l'adaptation cinématographique de la nouvelle japonaise All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka. Dans un futur proche des ordres d'extraterrestres, les mimiques ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Le commandant William Cage, interprété par Tom Cruise, qu'on entendait là, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à plutôt une mission suicide. Alors il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle. Il est condamné à revivre le même combat et à mourir à nouveau indéfiniment. Mais il va tenter évidemment de trouver la clé pour sortir de cette boucle. C'est aussi avec Emily Blunt, 1 239 000 entrées en France. Il faut savoir, alors pour moi, ça fait partie des films d'une belle réussite. Et en mai 2017, Doug Liman confirme qu'il développe une suite d'après une intrigue imaginée par Tom Cruise. Alors c'est là qu'on peut peut-être s'inquiéter. Il annonce par ailleurs un titre, Live, Die, Repeat and Repeat. Oui, bon, c'est un peu le principe de Edge of Tomorrow. Donc la production est lancée timidement. Et par ailleurs, il y a deux films de Doug Liman qui sont attendus. Alors, je pense cette année, sa dystopie de science-fiction Chaos Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley. Et puis Locked Down, sorti sur HBO Max le 14 janvier. Mais comme cette chaîne n'est pas présente sur le territoire français, eh bien, on devra attendre qu'une autre plateforme prenne les droits. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de Doug Liman. Dernier extrait de ce blind test.
C'est quoi ton problème ?
Bah quoi ? Ça a déraillé.
Ah ouais, tu crois ?
Désolée.
Eh ben la douleur, elle est bien réelle. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ?
Y a rien à comprendre, rien n'a d'importance, hein ? C'est ce que tu dis toujours.
Non, la souffrance, c'est important. Ce qu'on inflige aux autres, c'est important. Semer la terreur, c'est pas drôle, d'accord ? Ça n'a rien d'épanouissant. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. Et même si tout recommence à zéro et que personne ne se souvient, nous, on s'en rappelle et on doit vivre avec ça sur la conscience.
Oh, tu vas me faire pleurer, là, arrête. T'aurais jamais rien fait, je t'ai rendu service, alors va te faire foutre.
Non, c'est toi qui vas te faire foutre. C'est vrai, quoi, depuis tout à l'heure, t'agis comme une gamine. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu t'es retrouvé là au départ. Ow ! Tu vois, t'es une gamine.
Je te vois froncer les sourcils, peut-être parce que tu ne l'as pas vu. Alors,
il y a
deux particularités pour ce blind test. D'habitude, je prends des films qui sont sortis au cinéma. Celui-ci,
celui-là, il n'est pas sorti.
Il n'a pas pu le sortir. Mais en revanche, il a été présenté au festival Sundance. Donc, pour moi, c'est une sortie, en quelque sorte.
D'accord. Il est sorti récemment, en fait.
Et la deuxième particularité, c'est qu'il est sorti sur une plateforme en 2021.
Ah d'accord, voilà. Bon, je ne pense pas l'avoir vu.
Et non, mais on en a parlé, on a beaucoup apprécié.
Ah, c'est le Palm Beach ?
Palm Springs.
Ah, Palm Springs. Oui. Ah, d'accord, oui. Non, Palm... Palm Springs.
Palm Springs, comédie romantique de Max Barbaco. Donc, Max Barbaco, qui est un inconnu, c'était son premier film. L'insouciant Niles fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Springs de Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l'espace-temps de ce mariage, contraint de revivre sans cesse la même journée. Donc, le film a été projeté en avant-première au Festival de Sundance. C'était en janvier 2020. Il n'a pas eu le temps de sortir au cinéma. Les droits de diffusion ont été très vite acquis par Néon et Hulu, donc la plateforme américaine, et il a été ensuite projeté sur une autre plateforme en France. Film remarquable qui est donc toujours à voir, toujours disponible. N'hésitez pas à vous abonner ou à demander des codes. Ainsi s'achève ce blind test donc spécial boucle temporelle. Allez, on achève cette émission avec Francis Ford Coppola. Après Peggy Sue s'est mariée la semaine dernière, on s'arrête sur un autre film du réalisateur américain qui sort dans une nouvelle copie DVD Blu-ray. C'est Jardin de pierre, film de 1987 avec James Caan et Angelica Houston.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
En 1986, nous quittions Peggy Sue avec un élégant mouvement de caméra en arrière qui nous faisait sortir d'un miroir et donc du rêve américain des années 60. En 1987, le rêve d'une même décennie s'est transformé en cauchemar à cause de la guerre du Vietnam et les couleurs pastels ont laissé place au style austère de Jardin de pierre. Le film s'ouvre sur une cérémonie dans le cimetière militaire d'Arlington où ont lieu les funérailles du jeune Jackie Willow. Cet enterrement n'est pas banal. Si les lieux ont vu passer nombre de cérémonies funéraires, celle-ci est spéciale car on va faire comprendre aux spectateurs qu'après nous avoir montré la fin, funeste, nous allons assister à l'avant, là où tout ou presque a commencé. Les sergents Clell et Goody voient arriver de nouvelles recrues, dont Jackie Willow. Les deux sergents sont cantonnés dans un bataillon de parade à Washington et sont donc loin de la guerre. Ils l'ont pourtant bien connu, étant des vétérans entre autres de la guerre de Corée. Willow, lui, ne l'a pas encore pratiqué, mais semble être né pour. Il faut dire que son père est un vieil ami de Clell et son fils semble pouvoir faire honneur à l'esprit combatif de la famille. Le problème de Clell et donc de Willow, c'est que Clell a une idée bien arrêtée sur la guerre. Selon lui, elle est très mal menée et ne sert donc à rien. Clell croit en son pays et considère l'armée comme sa famille, mais désapprouve une politique étrangère qu'il juge désastreuse et juste bonne à ramener régulièrement de la chair fraîche broyée dans des sacs mortuaires pour qu'il puisse être enterré au cimetière militaire d'Arlington. Forcément, quand il voit arriver Willow avec ses idéaux aveugles et son idéalisme outrancier, il va tout faire pour le faire redescendre malgré les protestations de ce dernier qui n'y voit qu'une défaillance envers le drapeau. Il se trouve que Clell est bon, très bon même, et que tout le monde sait que là où il pourrait faire la différence, c'est justement au front, là où il pourrait mieux veiller et surtout finir de former ces jeunes, à peine imberbes, qui vont tout droit au casse-pipe. Mais il est forcé de rester aux États-Unis et noie sa lassitude comme il le peut, laissant ses enfants, qui sont un peu les siens, partir se battre, mais surtout mourir, la mort dans l'âme.
Très honoré de vous connaître, engagé spécialiste Willow.
Ah bon, d'accord. Et pourquoi ?
D'abord et d'une, on est les deux seuls éléments de ce poste qui semblent vouloir y aller.
Vouloir y aller? Mais où?
Sur la ligne de feu au Vietnam, chef, sergent.
Il n'y a aucune ligne de feu au Vietnam. C'est une guerre différente des autres, on n'est même pas une. Il n'y a rien à gagner et rien pour la gagner.
Si c'est ça que vous pensez, pourquoi vous y retournez?
J'y retourne pas. J'ai plus rien à faire là-bas.
La mort, c'est ce qui frappe le spectateur dès les premières images. L'envers des 60s est bien sombre pour Francis Ford Coppola, qui signe d'ailleurs ce film, comme d'autres au cours de cette décennie, par un plus sobre Francis Coppola, signe que ce film est une commande des studios qu'il honore. Même si le sujet n'est pas personnel, nul doute qu'il le connaît sur le bout de ses doigts. Moins de 10 ans auparavant, il avait gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes avec Apocalypse Now. Sa fresque guerrière hallucinée sur le Vietnam dépassait le simple film de guerre pour devenir un opéra wagnérien qui n'hésitait pas à plonger au plus profond de la folie de l'homme dans un grand récit conradien. Jardin de pierre, lui, en est l'opposé. Le conflit armé nous est bien montré, mais uniquement par le biais d'écrans de télévision ici et là, et la caméra du réalisateur s'intéresse cette fois à l'envers du décor et à ceux qui ne sont pas encore partis ou qui en sont revenus, et pour la plupart, pas indemnes. Jardin de pierre est paisible en apparence, mais l'agitation est tout le temps palpable dans les yeux de ses personnages. Il y a Clell et Goody, joués par les immenses James Caan et James Earl Jones, l'impétueux Willow bien sûr, mais aussi Samantha, jouée par Angelica Houston, qui est une journaliste farouchement opposée aux idées de Clell, mais qui va nouer une très belle relation amoureuse avec lui. Ces deux visages de l'Amérique réunis en un couple, c'est bien ça le fond de Jardin de pierre. Coppola dresse le portrait d'un pays bicéphale qui accepte enfin de considérer un tant soit peu les jeunes envoyés au massacre et vus de manière indépendante de la politique interventionniste de leur pays. Le temps de la réflexion est aussi celui du deuil au sens propre comme au sens figuré, d'une innocence qui est, comme il était écrit sur l'affiche de Platoon d'Oliver Stone, la première victime de la guerre. Si le talent de Coppola pour filmer de manière sensible des gens ordinaires et leurs problèmes n'est déjà un secret pour personne, Jardin de Pierre est probablement l'un de ses plus poignants drames. Tournant encore et toujours autour de la figure de la famille, il n'est donc pas étonnant de trouver des gens comme Carmine Coppola à la musique dans le générique. L'édition de Carlotta dans un beau Blu-ray permet de compléter petit à petit ces trous dans la famille cinématographique de Coppola chez nous, et cette redécouverte ne vous laissera assurément pas de marbre.
Jardin de Pierre est un film de Francis Ford Coppola qui est de nouveau disponible dans une nouvelle copie DVD Blu-ray.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine et on parlera de la 46e cérémonie des Césars. De quoi sera-t-elle faite, vu eh bien, l'ambiance en 2020 ? On aura la réponse. À la semaine prochaine.